La première. Podcast. Sacré cocktail du lundi au jeudi de 14 à 16 heures sur la première.
Lionel Francard, bonjour.
Bonjour Sophie.
Comment allez-vous? En mitouflé dans l'écharpe, je ne crois
pas. Si. À toutes les saisons, moi.
Bien Lionel. Aujourd'hui, on va faire découvrir à nos auditeurs un personnage, un grand personnage du design. Mm-hmm. Il est belge, parce qu'il faut quand même le savoir qu'en matière de design, on est pas mal. Il s'appelle Paul Quadens. On prononce le S, hein, vous me disiez.
Tout à fait.
Et notre homme est en ce moment sous le feu des projecteurs. Enfin, il le sera dans quelques jours, puisqu'il y a une expo et une vente aux enchères qui sera organisée à la maison de vente aux enchères Pierre Berger associé. On est à Bruxelles, sur la place du Grand Sablon. Ce sera du 17 au 23 juin. Hein, donc, c'est l'occasion rêvée de nous faire découvrir ce prodige.
Voilà, un homme qui vous est présenté en 4 épisodes, hein, au plus près de la création. Le designer belge s'est lancé donc dans les objets, vous l'avez dit, et les meubles, après avoir été en fait carrossier et s'être frotté aux matériaux en tout genre. Alors, parmi ses créations géniales, il y a cette étagère à CD, réalisée en 1987 et vendue à plus de 100 000 exemplaires aux quatre coins du globe. La chaise C06, la plus légère du monde, elle ne pèse que 950 grammes. Mmh. Et plus tard, en 2000, la Strada. Une chaussure haute de 10 cm sans talons, mais sur laquelle on tient bien, hein, vraiment. Alors, des objets et des histoires sur lesquelles nous reviendrons, bien sûr, cette semaine. Paul Quadens, qui n'a jamais quitté très longtemps la Belgique et sa Bruxelles natale. Et c'est dans son atelier à Anderlecht que je l'ai tout d'abord rencontré. L'homme n'a pas de secret sur sa technique ni sur son art. C'est un vrai passionné. Paul Quadens, là vous êtes en train d'enlever des serre-joints autour d'une nouvelle table.
Oui, c'est une table probablement, selon moi, la plus belle table que j'ai jamais faite. J'aime beaucoup les tables, j'aime beaucoup les signes des tables. C'est un objet qui m'intéresse énormément et celle-ci est particulièrement magnifique et très compliquée à réaliser.
Ici, simplement, on est dans votre atelier, donc un atelier tout simple.
Oui, c'est un peu comme un atelier de menuiserie, en fait. Hein. Je travaille des matériaux composites, mais j'utilise des outils, en fait, conçus pour la menuiserie, conçus pour le bois. Pour le bois et pour le métal. Donc, en fait, je suis outillé pour le bois, le métal, les composites, et voilà, c'est à peu près tout. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont tous des outils à main qui sont de bonne qualité.
Pour nous rappeler que c'est de l'artisanat, en fait, que vous faites du design artisanal.
Mais ça, c'est pour que les gens comprennent, parce que on a une donne culture, on sait ce que c'est que l'artisanat, on sait ce que c'est que l'art, on sait ce que c'est que le design. En tout cas, on a une notion de ces trois appellations, de ces trois termes. C'est simplement pour simplifier, ça ne me dérange pas de dire que je fais de l'artisanat, et au contraire, c'est plutôt une qualité, c'est une sorte de fabrication à la pièce, comme ça, peut-être pour le client spécialement, ou faire des séries limitées. Voilà ce que je fais en fait principalement pour l'instant.
Et donc vous faites tout seul, et vous préférez peut-être faire tout seul?
En 25 ans de carrière, j'ai quand même passé par tous les stades de fabrication, de production, etc. J'ai eu beaucoup de personnel, j'ai eu moins de personnel, j'ai eu pas de personnel du tout. Maintenant, avec une petite équipe de 1, 2, 3 personnes, on arrive à faire à peu près tout. Ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, en mieux, en plus précis, de meilleure qualité.
Alors cette table qui est devant nous, elle est faite dans ce matériau que vous privilégiez depuis quelques années maintenant, c'est le corian.
Oui, le corian, ben voilà, moi je suis très curieux en fait. Je m'intéresse beaucoup aux nouveaux matériaux, aux nouvelles techniques, et je suis obligé, puisque mon idée dans le design, c'est de faire des choses futuristes, donc travailler pour l'avenir, éventuellement le présent de certaines personnes et l'avenir de tout le monde. Donc forcément, ce qui m'intéresse, c'est les matériaux du présent et de l'avenir. Et le corian existe malgré tout depuis 40 ans. C'est une sorte de pierre reconstituée, c'est de la résine acrylique et du bauxite, qui est une poussière d'aluminium en fait teintée, qui permet d'avoir des couleurs, des teintes très franches et en profondeur, donc dans la masse. On arrive à cintrer ce corian à chaud. On le colle avec des colles qui sont plus de la soudure qu'autre chose, qui devient invisible après. Donc ça donne tout de suite des idées. Dites à un menuisier ou un ébéniste qu'il va pouvoir assembler des panneaux d'une super qualité, tous réguliers, avec une colle invisible, indécollable, et qui va pouvoir cintrer dans tous les sens, à chaud, son matériau, et le retransformer, le réchauffer, le reformer autant de fois qu'il le veut. Ben, il va trouver ça tout simplement révolutionnaire, et c'est le cas. Simplement, je suis probablement un des seuls à faire des meubles avec ça. Il y en a qui commencent, mais je suis un des seuls.
Pourquoi ? Comment ça vous est venu alors d'aller chercher cette matière ? Parce que manifestement, ça vient aussi de... Est-ce que ce n'est pas utilisé dans l'aéronautique ? Ou vous n'allez pas chercher des idées aussi dans tout ce qui est nouvelles technologies, dans la Formule 1 ? Il me semble que vous allez puiser d'ailleurs vers ces matières du futur et vers ces technologies du futur.
Oui, moi je conçois l'objet un peu comme un outil ou comme un article de sport. Donc pour moi, l'objet qui me plaît, le design qui m'intéresse, mon truc à moi, c'est de faire presque des articles de sport, des objets performants dans le meuble. C'est compliqué parce que c'est pas du tout une sorte d'envie comme ça, sportive, pas du tout. C'est carrément que je dis que les articles de sport bien conçus, un club de golf, une raquette de tennis, un avion, n'importe quel objet de sport, s'il est bien fait, s'il est performant, il utilise le moins de matériaux possible, le maximum de résistance possible. Et si le designer qui le dessine ou l'ingénieur qui le fabrique n'y apporte pas de détails décoratifs inutiles, il ira vers une beauté évidente et naturelle et incontournable. Voilà, donc il y a plus de beauté, il y a plus d'esthétique intéressante dans les objets performants que dans les objets issus de la culture de certaines personnes, quoi.
On va revenir au coréen. Pourquoi alors ? Est-ce que les autres n'ont pas trouvé l'idée avant vous, ou en tout cas ne vous suivent pas, ne vous copient pas là-dedans?
Mais ça, c'est parce qu'il faut être un peu fou pour faire ce que je fais, et je le suis parce que je remarque par rapport à maintenant, ça va, je commence à me connaître, donc je vois après les années que j'ai une certaine folie dans ma manière de vivre, dans ma manière de travailler, dans les défis que je relève tous les jours, et il faut cette folie. Il faut prendre des risques, et je prends des risques tout le temps. Donc évidemment, quand j'ai commandé mes premiers panneaux de coréen, j'y connaissais rien, j'en ai cassé plusieurs et ça m'arrive encore. Donc je prends des risques, mais c'est en prenant des risques qu'on réussit. C'est pareil pour la fibre de carbone, les composites. Je prends des risques, je ne me contente pas de la facilité, je fais les choses les plus compliquées. Pour arriver à la plus grande simplicité, j'ai les outils les plus complexes et les matériaux les plus nouveaux et les plus inconnus. Et c'est une des possibilités d'arriver à réussir un objet, à continuer à avancer, à avoir donné un sens à ce que je fais, tout simplement.
Cette table qui est devant nous, donc elle est de couleur noire.
Le coréen noir, il est dans sa masse, mais il demande beaucoup de finition en surface, c'est-à-dire il demande un traitement très particulier pour arriver à satiner que j'ai choisi. Il y a différents grades de satiné ou brillant en miroir, et je choisis un satiné qui est un petit peu, qui est presque poli, mais qui n'est pas vraiment poli.
Il y a un côté plus brut et un côté plus satiné.
Oui, il y a des panneaux qui sont brillants des deux côtés, il y a des panneaux qui sont bruts d'un côté et brillants de l'autre. Le tout dans le noir, comme c'est vraiment la couleur la plus compliquée, qui ne pardonne pas et qui montre vraiment tous les défauts, c'est d'arriver à une surface magnifique. Et quand on sait que cette table en coréen qui fait 90 cm de large est en fait faite en deux panneaux qui sont collés dans leur milieu au plein centre de la table, c'est de dire à quel point le joint and colle doit être parfait, parce qu'on ne le voit pas une fois qu'on tourne la table, quoi. Polir une table comme ça, c'est un travail avec quelqu'un qui s'y connaît bien, qui a l'habitude de le faire en une journée, mais c'est 8 heures de boulot. Mmh. Rien que la surface. Mmh. Sur une table comme ça, il y a 60 heures de travail.
Mmh. Chauffé dans le four qui est juste là derrière.
Chauffé dans le four qui monte à 180 degrés. Et voilà, pour tout dire, le coréen se déforme à partir de 130 degrés, il commence à se ramollir. Entre 130 et 180, on peut travailler. Mais pour cintrer le côté de la table ici sur 2,60 m de long, j'utilise un système de résistance électrique placé dans des tubes aluminium, et on chauffe les deux parties comme un sandwich, et quand on arrive à température, grâce à un petit appareil qui mesure la température, on peut cintrer le côté de la table. J'en ai cassé une, on va aller voir là-bas. Voilà, ça c'est une partie de la table qui a été cassée, explosée après le cintrage.
À cause de quoi ?
Je cherche encore. J'ai ma petite idée, mais franchement, c'est une catastrophe. C'était en la resserrant sur la table. Peut-être la table qui n'était pas tout à fait plane, je ne sais pas. J'hésite encore. Ce qu'il y a, c'est que le coréen, en chauffant, il se déforme comme tout ce qui chauffe se dilate. La table flèche dans sa longueur, et puis on doit la redresser pour fixer les pieds, pour qu'elle soit bien droite. Et là, il peut y avoir des tensions et des sous-tensions, et ça peut exploser. Voilà, c'est arrivé hier. Un panneau pour la poubelle.
Ça veut dire que c'est donc pas facile à dompter, ce matériau.
Non, c'est vraiment... Les marchands du matériau me disent, quand ils viennent ici, ils sont vraiment étonnés de ce que je fais, parce qu'ils se rendent compte du travail que c'est énorme, risqué. Et, ouais.
Est-ce que c'est un atelier à votre image, Paul Codens?
Oui, j'ai commencé par les voitures en 85, et déjà c'était un atelier, donc j'ai toujours eu un atelier, il me faut ça pour être heureux, pour pouvoir travailler, c'est mon antre, c'est mon lieu de réflexion, de solitude, de silence, de travail, donc c'est le bonheur quoi ici.
Voilà, des voitures aux objets en coriant, c'est tout l'univers de Paul Codens que vous allez nous faire découvrir cette semaine, Lionel, c'est passionnant. Il y a peut-être une petite chose à rajouter concernant un catalogue pour ceux qui voudraient découvrir les productions.
Oui, à l'occasion de cette expo vente qui est donc organisée la semaine prochaine chez Pierre Berger et associé au Sablon, un catalogue donc biographique des œuvres de Paul Codens qui est édité chez OVO Éditions. Pour vous le procurer, alors soit vous vous rendez à l'exposition, soit vous envoyez un courriel via le site de l'artiste, www.paulcodens.com.
Voilà une expo qui se tiendra, je le rappelle, du 17 au 23 juin sur la place du Grand Sablon à Bruxelles. Et alors demain, on continuera cette jolie balade dans l'univers de ce designer. Il sera question de son parcours et de tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et toutes ses évolutions.
Podcast, la première.